Et un brosier, dernier l'a paumé.
Il n'y a peut-être pas que des margoulins dans ce métier-là quand même.
Je pense qu'il y en a 98%.
Parce que je pense qu'il y a de l'argent à gagner à garder des fichiers et à garantir qu'on saura les lire toujours.
Non, mais
c'est... Recopier les
bandes d'archives. Oui. Ben oui.
Mais pour donner quand même des ordres de grandeur français, si vous prenez une compagnie d'assurance, vous voyez que dans un tiroir, il y avait 3000 cartes. Les compagnies d'assurance qui avaient par exemple 500 000 assurés, c'était des murs entiers avec des meubles comme ça. Eux, ils stockaient les fichiers et devant, il y avait souvent des rails avec une échelle. Vous aviez des gens qui allaient extraire les cartes des fichiers permanents.
Oui,
comme
les
S'il y avait un incendie, les fichiers pouvaient être détruits. Bon, cela dit, comme c'était quand même un espèce de carton, c'était pressé, etc., c'était assez rare que ça brûle vite. Ça ne brûlait pas vite.
Oui.
Et très souvent, les fichiers étaient mis dans une zone relativement protégée. Mais c'était fragile.
Là, il y avait le problème de la sécurité incendie, mais il y a eu d'autres problèmes. Ça fait penser au Gamma 60 de la SNCF. Le Gamma 60 de la SNCF a été installé à la gare d'Auteuil, dans une gare où il passe des trains. Et le Gamma 60 ne supportait pas les vibrations. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi on a été se fourrer sur un centre de vibration notoire alors qu'il n'en fallait pas? Et il a fallu mettre une plaque sur des amortisseurs, enfin, ça a coûté très cher. Bon. Eh bien, l'application de la SNCF, c'était la paye des actifs et des retraités. 350 000 actifs de mémoire et 400 000 retraités. La saisie était sur carte à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Metz, etc. On amenait les cartes sur la machine pour faire de la paye. Les cartes, c'était quoi? C'était des chariots. Et c'est qui roulait où? Ben sur des quais de gare. Autrement dit, le système, l'application de la SNCF ne pouvait pas marcher autrement que dans une gare de triage. Et quand on avait imprimé les bulletins de paye ou les bulletins de retraite, on les remettait sur les mêmes chariots dans l'autre sens et on ramenait les listings à Bordeaux, à Metz et à Toulouse. Et il faut être conscient de ça. Alors avec une conséquence supplémentaire qui a fait que la SNCF a dit on recommencera jamais ça, c'est qu'il y avait une centralisation à un endroit précis et un mouvement social à la gare d'Auteuil, toute la France était arrêtée. Donc ils se sont bien promis de faire des machines régionales et plus de machines centralisées. Enfin, c'est intéressant. Pourquoi se mettre dans un lieu de vibration alors qu'il n'en faut pas? Tout simplement, ça ne pouvait marcher que dans une gare de triage. Et ça, c'est quand même... Bon, ce que je viens de dire, c'est un tout petit peu après la mécanographie, mais ça ne fait rien. Alors, en route vers l'ordinateur, comment passe-t-on de la mécanographie à l'ordinateur? C'est pas si immédiat que ça. La tabulatrice dispose d'une puissance de calcul limitée. Il y a le 604 chez IBM, le Gamma 3 chez Bull, qui permettait d'accélérer considérablement les calculs. Je n'ai vu qu'une application, que je m'explique mieux. Les tabulatrices étaient cycliques, c'est-à-dire que on faisait un tour, on refaisait un tour, on refaisait un tour, et on décidait ce qu'on allait faire à chaque tour. Bon. Le tour était divisé en 15 points, en 15 quinzièmes, et la carte avait 12 lignes. C'est-à-dire que la carte était en ligne directe par rapport à la tabulatrice que pendant 12 quinzièmes du temps. Bon. Il y avait donc 3 quinzièmes d'entre-cartes. Oui, il n'y avait pas de carte à ce moment-là, puisque on attendait la carte suivante. Donc il y avait des trous entre les cartes. L'entre-carte faisait 3 points. Ça s'appelait des points. Le Gamma 3 faisait tous les calculs possibles et imaginables pendant ces trois points. Autrement dit, il n'y avait plus de cycle à vide lancé sur la tabulatrice qui attendait, ou sur la calculatrice, comme on a vu tout à l'heure. Non.
Vous n'avez pas commencé les calculs avant.
Ah ben non, cyclique.
Au fur et à mesure de vous, puisque chaque ligne...
Donc chaque carte se lançait son calcul.
Vous la traitiez comme ça et pas comme ça.
Exact. C'était lu dans le sens des...
Vous avez bit 1 de tous les noms, et puis après, c'est ça.
Mais c'était lu en parallèle par les balais de la tabulatrice. Il y avait 80 balais qui lisaient les 80 colonnes. Donc on ne perdait pas de temps à la lecture.
Non, parce que vous auriez pu travailler en pipeline.
Ah oui.
Puisque vous saviez le calcul que vous aviez.
Oui. Ah oui, mais
vous
non.
Vous avez un chiffre, vous pouvez le faire.
Ça, oui, mais ça, je crois qu'en tabulatrice et en mécanographie, on a toujours lancé une opération pour un seul cycle. Alors, on répétait le même cycle, on en faisait un autre, mais c'était programmé, tout ça, évidemment. Ah oui. Alors, donc le...
Il y avait une objection à cette approche, c'est que dans la conception de base, on allait à une certaine vitesse pour lire une certaine longueur de carton. Mais si on avait pris les cartes dans l'autre sens, on avait donc une performance de cartes par minute bien inférieure. Avant qu'on ait atteint ce qu'on appelait des machines à 1000 cartes par minute, il a fallu attendre pratiquement le milieu des années 50.
Oui, c'est 50 ans.
Donc on lisait les cartes dans leur plus petite dimension et on lisait les 80 colonnes des cartes en parallèle.
En parallèle. Tu verras la brosse.
Mais la contrepartie, c'est qu'il fallait attendre d'avoir lu les 12 points de la carte pour commencer à faire la règle de 3 qu'on avait l'intention de faire.
Alors qu'autrement, vous auriez pu commencer à faire les calculs dès que vous avez les nombres à condition de les faire passer dans le monde.
Mais il n'y avait pas sur la tabulatrice la possibilité de gérer des trucs comme ça.
C'est la construction.
Oui, bien sûr.
À la fin de la mécanographie, à la fin des années 50, avec les lectures optiques et les entraînements pneumatiques, on aurait pu prendre une approche comme ça. Mais il y a longtemps que tout le monde voyait déjà arriver et les bandes magnétiques. Et donc, ça a peut-être existé dans les labos.
Les ordinateurs, eux, après, ont fait ça.
Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est jamais arrivé dans les machines de mécanographie, parce que déjà, les gens voyaient arriver la suite. Et je suis sûr que dans les labos, ça a pu exister.
On a lu des cartes dans l'autre sens pour faire des traductions. Là, il y a eu une traductrice colonne par colonne où la carte défilait, et alors avec une performance limitée, mais on imprimait en haut de la colonne la signification.
La solution, on prend la carte, on
dit. Ah ben, oui.
Et là, on l'a appris.